On se soutient.
Dans un message au peuple des trois pays à l'occasion de ce premier anniversaire, le président de la transition malienne a déclaré que grâce à l'alliance, les forces de défense et de sécurité des trois pays ont enregistré d'importantes victoires sur le terrain, affaiblissant considérablement les groupes armés terroristes. Abdullah Razak Idrissa pour VOA Afrique, Niamey.
Et pour ce débat, mes invités sur ce plateau avec moi, Bagassi Courage, chef du service Bambara de la VOA. Bonsoir Bagassi.
Bonsoir Alexandre.
Nous avons de Bamako au Mali Mohamed Abdelali El Khalil, spécialiste des questions sécuritaires et sociales et sécuritaires du Sahel. Bonsoir, bienvenue.
Et bonsoir madame.
Et nous avons de Ouagadougou au Burkina Faso Blaise Kientega, journaliste et analyste politique. Bonsoir monsieur Kientega.
Bonsoir madame et bonsoir à tous.
Nous allons d'abord parler de l'aspect sécuritaire. Lutter contre le terrorisme est l'un des objectifs de la création de l'Alliance des États du Sahel et selon l'ONG ACLED, l'ONG note une aggravation de la situation sécuritaire dans chacun des trois pays. Le nombre de victimes d'attaques civiles signalées au cours du premier semestre 2024 a augmenté au Sahel par rapport aux six mois précédents des attaques. Notre correspondant le disait tout à l'heure, avec un nombre croissant de victimes comme celle de Tienzawaten au Mali, Darsalogo au Burkina Faso et l'attaque de mardi dans la capitale malienne. Bagassi, ce premier anniversaire, quel bilan vous en faites sur le plan sécuritaire?
Oui, surtout ce qu'il faut remarquer, c'est les intentions des États de mettre en place mettre en place des mécanismes communs, notamment en matière de sécurité. Et donc, ils ont annoncé justement cette force conjointe entre le Burkina Faso, le Niger et le Mali. C'est de bonnes intentions. Et peut-être que nous, tant qu'analystes, on est un peu pressés. Ça fait seulement quelques mois, 12 mois, que cette plateforme se met en place. Mais il faut aussi dire que ceux qui critiquent, ils ont quand même assez d'arguments parce qu'il n'y a pas de résultat. Comme vous le dites, la situation s'est empirée. Il y a Darsalogo, plus de 400 morts. Il y a cette attaque assez courageuse qui a eu lieu à Ouagadougou et à Bamako ce mardi, qui est assez grave. On n'a pas vu ça depuis de nombreuses années. Et puis il y a tout ce qui se passe dans le Tillabéri et le nombre de déplacés de ces pays a augmenté, non seulement à l'intérieur de ces pays, mais les réfugiés au Ghana qui proviennent du Burkina Faso, en Côte d'Ivoire, des réfugiés maliens en Mauritanie, des réfugiés burkinabés au Mali. En tout cas, les indicateurs sont au rouge et peut-être que je ne sais pas s'il faut peut-être espérer que c'est avec le temps qu'on verra beaucoup plus le résultat positif de tous ces efforts de ces trois pays-là.
Monsieur El Khalil, avez-vous noté de votre côté des avancées significatives réalisées sur ce plan sécuritaire? Bagassi parlait tout à l'heure de l'annonce de la force conjointe. Est-ce qu'il y a eu des mécanismes mis en place au sein de l'Alliance pour lutter contre ces menaces?
Je pense tout d'abord, moi je m'incline devant la mémoire des frères et sœurs qui sont tombés pendant l'attaque barbare lâche, comme on l'appelle, perpétrée par les hommes sans foi, les impies, au nom de quoi que ce soit, je ne sais pas, des hommes de génie. Et je pense que les États du Sahel, a fait des avancées vraiment, comme on l'appelle, significatives par rapport à la question sécuritaire. Parce que quand on regarde le but, l'objectif de la création de cette organisation, c'était d'abord de propulser ou d'établir une architecture de défense collective et d'assistance mutuelle pour lutter contre l'extrême violence du terrorisme et la criminalité sur toutes ses formes. Et nous avons vu que ces États étaient parvenus vraiment à faire des produits ensemble, à être sur le terrain ensemble, à lutter ensemble contre, au niveau de la frontière de 3D, notamment au Burma, contre les groupes terroristes du Jnim, de Kaïda, de la Katiba des Massénés, etc. Donc ça, c'est déjà quelque chose qui n'existait pas avant sous cette forme. Mais aujourd'hui, on voit une sincérité entre les trois groupes, c'est-à-dire le Sahel, le Niger, du Mali, du Burkina Faso et du Niger. Mais il y a aussi ce qu'on appelle l'aspect lutte transfrontalière. Je pense qu'à l'époque où Bazoum était au Niger, la question de la lutte contre le transfrontalier, quand le Mali s'était retiré du G5 Sahel, cette lutte transfrontalière avait été bloquée. Mais avec la création de l'AS, la lutte transfrontalière de lutte contre le terrorisme d'extrême violent et de faux trafiquants ou la criminalité a été réactivée avec la naissance de l'AS. Donc voilà un peu les avancées, malgré qu'il y a des nombres très élevés de déplacés internes et des PDI, et également de déplacés des Maliens en Mauritanie, des Afro et à Bangas. Et c'est des réalités, mais je pense que ce rêve qui est l'AS peut être une réalité quand vraiment tout le peuple de l'AS, c'est-à-dire réfléchisse ou essaie de soutenir ce projet porté par le leader de cette organisation qui est le colonel Assimi Goïta.
Pour revenir sur cette annonce de la force conjointe de l'Alliance Blaise Kiantega, est-ce que vous en savez un tout petit peu sur ce projet? Où en est-il?
À la suite donc de mon frère du Mali, il faut d'abord donc s'interroger sur la mémoire donc de tous ces victimes qui sont tombées. En ce qui concerne effectivement donc l'alliance donc des États du Sahel, c'est effectivement cela fait de cela une année. Un certain nombre de mécanismes à la faveur donc du sommet des chefs d'État du côté de Niamey étaient censés donc se mettre en branle. Une année après, il faut se dire qu'il y a substantiellement des résultats qui ont été engrangés. Rappelez-vous que avec la présence donc de Barkhane Takuba au Mali, pendant une dizaine d'années, on n'a pas pu récupérer Kidal. Les militaires venus au Mali au pouvoir étaient taxés d'incapables donc d'aller sur le front. Donc la libération de Kidal, qui a eu la participation donc des selon certaines sources donc de l'appui en renseignement et également en logistique donc du Niger et du Burkina Faso, montre à merveille que la conjugaison donc des efforts donc de ces trois États s'est avérée productive.
Au regard des défis actuels auxquels font face ces États, qu'en est-il du moyen logistique et financier? Ont-ils aujourd'hui les moyens pour pouvoir soutenir cette force et vraiment qu'elle soit effective?
Oui, je pense que comme il y a la volonté de ces trois pays d'aller ensemble, ils vont certainement trouver les moyens. On sait que le Mali s'est beaucoup armé ces dernières années, le Burkina aussi s'est lancé dans l'armement, et bien sûr il y a le Niger, ils peuvent mutualiser tous ces moyens militaires-là. Mais comme le notent certains observateurs, cette guerre, ce n'est pas seulement la question de moyens. Il faudra beaucoup plus que ça, parce qu'on a beaucoup parlé d'exactions dans ces zones-là, et tout ça, ça sert un peu à envenimer la situation. Il faudra aller au-delà de la question des moyens pour essayer de voir comment est-ce qu'on peut ressouder les communautés. Mais sinon, sur le plan des moyens, les moyens militaires notamment, ces pays-là en ont, mais comme vous avez vu avec l'attaque de Barça-Logo, à moins d'une heure de vol de Ouagadougou, l'attaque de Bamako, c'est un endroit qui doit être le plus sécurisé au Mali, l'aéroport doit faire partie, et ça a pu être attaqué pas en 30 minutes mais sur plusieurs heures. Donc ça veut dire que les moyens c'est bien, mais c'est aussi c'est limité à ce que ça peut faire dans cette lutte contre la sécurité. Mais déjà la volonté y est, et peut-être que si on va au-delà des moyens et si d'ici là des formules sont trouvées pour régler cette question des exactions communautaires, des discriminations contre certaines communautés, peut-être que ça peut aider à régler cette question-là de terrorisme.
Nous avons posé la question également aux auditeurs, aux téléspectateurs de cette émission. Quel bilan pour l'Alliance un an après sa création? Je vous propose quelques réactions recueillies sur la page Facebook de VOA Afrique. Yao Marcelin Kofi à Abidjan, en Côte d'Ivoire, nous dit que l'AES veut prouver à la CEDEAO qu'elle a mesuré toutes les conséquences qui pourraient résulter de son retrait de la dite organisation. L'annonce du lancement de nouveaux passeports renforcera l'Alliance en attendant la création d'une monnaie. Après un an, c'est un bilan partiel, positif au niveau de la lutte antiterroriste, du lien, de la fraternité et surtout de la solidarité. Le bloc régional a maintenant compris que ce retrait est irréversible. J.M. Gwese à Anyama, au Nigeria, nous dit que les attaques djihadistes pour lesquelles ils ont renversé les régimes civils dans les trois pays persistent et se sont d'ailleurs amplifiées, dit-on. Les colons, selon lui, ont également quitté leur pays. Les résultats des actions militaires sous le commandement des dirigeants militaires tardent à se faire sentir 2 voire 4 ans après après leur arrivée au pouvoir, comme quoi il ne suffit pas d'être militaire pour imposer la paix dans son pays. Les dirigeants poutistes ont-ils échoué? Tout le monde fait le douloureux constat. Alors, nous avons Warai Fabrice à Casablanca au Maroc qui dit qu'il s'agit d'une belle réussite avec la mise en circulation des passeports biométriques de l'AES, le développement des échanges commerciaux et la baisse des prix des denrées alimentaires dans cet espace. C'est l'avis de nos téléspectateurs et on se retrouve après la pause pour la suite de ce débat Washington Forum sur Véro-Afrique.
Nouvelle émission tous les vendredis de 16h30 à 17h temps universel sur VOA Full Full B.
Dans De Full B, braque ses projecteurs sur les jeunes, leurs ambitions, leurs projets, leurs défis.
Dans De Full B, c'est aussi la vie de la communauté Peul, sa culture, son identité, sa résilience et son avenir dans un monde qui change.
Restez connectés et découvrez toutes les facettes de cette vaste communauté, riche par sa diversité.
Dans des foules B en FM, ondes courtes, sur la fréquence des 7630 kHz, sur nos réseaux sociaux et à travers nos stations partenaires en Afrique.
Dans des foules B de 16h30 à 17h temps universel, sur VOA Full Full Day.
Sur VOA Afrique, bienvenue si vous nous rejoignez. Nous revenons sur le premier anniversaire de la création de l'Alliance des États du Sahel. Avec moi sur ce plateau, Bagassi Koura, chef du service Bambara de la VOA. Nous avons en ligne de Bamako, Mali, Mohamed Abdelali Khalil, spécialiste des questions sociales et sécuritaires du Sahel. Et de Ouagadougou, Burkina Faso, Blaise Kietega, journaliste et analyste politique. Nous avons parlé de l'aspect sécuritaire et selon certaines analyses, l'Alliance a été créée pour voler au secours du Niger face à la coalition internationale qui se formait contre les poutistes et cela a plutôt été une réussite avec l'affranchissement de ces états du bloc régional, la CDAO Bagassi.
Oui, les critiques disent qu'en réalité l'AES a été créée pour échapper à ces sanctions de la CDAO, à la pression de la communauté internationale, donc un peu comme ils le disent, des poutistes se mettent ensemble pour essayer de protéger leur propre régime, c'est ce que c'était avant, mais en tout cas ça a été créé dans la foulée de cette crise au Niger où il y a eu toute une mobilisation d'un côté, le côté de la CDAO, la communauté internationale, mais aussi ces trois régimes se sont mobilisés pour dire qu'il n'est pas question d'attaquer le Niger, donc c'est comme s'il y avait une sorte de lien entre défendre les putsch et la création de l'AES. Ce qu'on peut noter, ce que beaucoup soulèvent, c'est qu'on pouvait créer l'AES sans sortir de la CDAO, parce que le Liptako Gourma dont s'inspire l'AES existait sous la CDAO, donc ces trois pays pouvaient bien être ensemble et continuer à être membre de la CDAO et même mettre la pression sur la CDAO pour qu'elle puisse faire des réformes pour pouvoir les aider à lutter contre le terrorisme.
Mais la quête de souveraineté que réclament les dirigeants des États du Sahel ne serait pas satisfaite dans ce cas?
Oui, mais même en se mettant à trois, il y a la question de la souveraineté. Donc à 16 ou à 3, on n'est toujours pas souverain. C'est quand on est seul qu'on peut décider sans tenir compte des autres. Aujourd'hui, si on est au sein de l'AES, le Burkina ne peut pas trancher sans tenir compte de l'avis du Niger et du Mali. Donc il y a toujours, pas que c'est mauvais, c'est juste un constat que je fais. Chaque fois qu'il y a des regroupements, chacun décide de laisser une partie de sa souveraineté, que ce soit l'Union européenne, que ce soit l'Union africaine. On pouvait bien rester au sein de la CDAO et la preuve c'est que ces pays sont dans l'UEMOA dont la monnaie historiquement est toujours liée à la France, donc si la France leur posait le problème, la question de l'UEMOA devrait être aussi posée, en tout cas ce n'est pas encore le cas, donc il y a des questions que ça soulève, pourquoi est-ce qu'ils ont quitté la CDAO. L'argument avancé, ça ne convainc pas beaucoup de gens.
Monsieur Etralil, j'aimerais avoir votre avis sur ces analyses qui pensent que l'AES a été créée justement pour venir au secours du Niger à la suite du bras de fer avec la CDAO.
En réalité, je ne partage pas à 100% la réaction du droit par rapport à cette question, parce que l'AS, la création de l'AS était une nécessité, parce que la CEDEAO avait atteint son apogée, la CEDEAO avait atteint ses limites, la CEDEAO avait trahi ses peuples. Et donc aujourd'hui, nous, Africains, nous, peuples de l'AS, il n'y a pas question de Burkina Faso du Niger, il y a question de l'AS. Il n'y a pas question de souveraineté du Burkina du Niger ou du Burkina Faso, il y a que la question de souveraineté de l'AS. Et aujourd'hui, ces trois pays ont un destin commun, et avaient un destin commun depuis fort longtemps, depuis le temps de nos anciens grands-pères, depuis le temps de nos ancêtres. Donc aujourd'hui, nous voulons aujourd'hui réactiver ces racines ancestrales qui existaient depuis trop longtemps pour vraiment apporter des solutions endogènes à tous les problèmes que nous faisons face. Et aujourd'hui, la question de la CEDEAO, rester à la CEDEAO, ça ne pouvait pas empêcher, comme on appelle les États de l'AS, à poser quoi que ce soit. Mais la CEDEAO même devrait disparaître, parce que la CEDEAO des peuples qui a été décidée depuis dans les années 2000, n'a pas vu jour. Et le peuple rêvait de voir une organisation du peuple, mais on a vu une organisation de l'Occident, une organisation de la France, si je me permets de le dire, qui manipule certains chefs d'État pour vraiment contrer qui que ce soit, sans pour autant songer, comme on appelle, à la souffrance des peuples, à la souffrance des acteurs, des organisations de la société civile. C'est ça le vrai problème, c'est ça la vraie question que les Africains doivent se poser. Aujourd'hui, nous, les trois pays, le Burkina Faso, le Niger et le Mali, se sont donné leurs mains afin de faire face à tous les ennemis, c'est-à-dire d'un projet commun qui existait depuis trop longtemps, qui est le projet de Victor Bourgois, qui était déjà un royaume depuis trop longtemps.
Monsieur Kintega, votre avis?
Voilà, donc je pense que, comme l'a dit le frère du Mali, effectivement, il y a de faux narratifs qui sont donc envoyés donc vers le Sahel, et le Sahel aujourd'hui est victime, pour ne pas dire l'AUS est victime donc de faux narratifs et de faux jugements, parce que l'AUS est née dans un contexte très précis, dans un contexte de délabrement et de dénuement total de nos forces armées nationales, quand on prend les trois pays, excepté le Niger qui est substantiellement était de tout matériel. Vous avez en fait une montée en puissance qui s'était fait constater donc des groupes armés vers les capitales. Pour ce qui est pour ce qui concerne le Burkina, les groupes armés terroristes étaient environ 100 km de Ouagadougou quand donc le capitaine Ibrahim Traoré venait au pouvoir. Il a fallu donc des commandes massives en armement et de recrutement en personnel pour faire reculer substantiellement les groupes armés. Donc je pense aussi que l'AUS est née dans un contexte donc de la nécessité donc de sauvegarder les institutions donc de ces pays-là. Donc du coup, au niveau donc de l'élite technocratico-administrative, il y a une certaine lenteur dans la mise en œuvre donc des recommandations des chefs d'État, à savoir la mise en place d'un certain nombre d'instruments. Pour ce qui est de la force conjointe, beaucoup d'analystes avaient souhaité une force armée fédérale des trois États, mais également aller en profondeur en opérationnalisant un certain nombre d'instruments aussi bien diplomatiques, mais également sur le plan économique, comme l'a annoncé donc le président Assimi Goïta, le président en exercice de l'AUS, à savoir une banque d'investissement donc pour justement, parallèlement à cette lutte contre le terrorisme, relancer substantiellement l'économie qui a été justement affectée donc, avec la question sécuritaire. Donc je peux dire qu'en termes de bilan, il y a des efforts qui ont été faits. Il est vrai que pour de telles alliances, tout ne peut pas se faire du jour au lendemain, mais beaucoup d'analystes et beaucoup d'experts terrain, en tout cas qui sont au Burkina Faso, au Mali ou au Niger, ont de l'espoir que dans les mois et les jours à venir, la situation va se renverser en faveur donc des États de l'Alliance du Sahel.
Je vous voyais hocher la tête, Bagassi.
Monsieur Kintega dit que les terroristes ont été repoussés, étaient à 100 km de Ouaga, ils ont été repoussés. Sauf que Barcelone est à 150 km de Ouagadougou et c'est la plus grave attaque de l'histoire du Burkina. Il y a eu ces incidents à Bamako, c'était juste mardi et à côté, c'était dans la capitale malienne, ce qui n'était jamais arrivé depuis plusieurs années. Donc le résultat n'est pas encore au rendez-vous, peut-être que ça va venir un peu plus tard parce qu'il faut peut-être être patient, c'est une nouvelle organisation qui se met en place. Mais pour l'instant, on n'y est pas, le compte n'y est pas, les gens veulent être... c'est vrai qu'on veut rester optimiste, mais la réalité, il faut la reconnaître, elle n'y est pas.
Monsieur Kintega?
Oui, je pense que pour nous qui vivons dans les pays du Sahel,
il faut reconnaître que le terrorisme, nous suivons la situation sécuritaire depuis 2015. Et depuis 2015, avec la présence donc de forces étrangères sur notre sol, la MINUSMA au Mali, Barkhane, avec un contingent de milliers de soldats, Bamako a été attaqué en plein cœur. Je suis désolé, l'hôtel Radisson a été attaqué pendant que Barkhane était là. Et Ouagadougou a été attaqué pendant que il y avait donc un détachement des forces armées française à Cambouin-Saint. Je suis désolé, c'est avec la présence de la France que Yako, à 100 km de Ouagadougou, a été attaqué. La Toda, un village proche, a été attaqué. Andentenga a été attaqué. Ça n'était jamais arrivé. Boromo, l'axe, les RN étaient presque coupés avant que le capitaine Ibrahim Traoré ne vienne au pouvoir.
Et ça n'a pas changé non plus.
Aujourd'hui,
depuis qu'il est là, ça n'a pas vraiment changé.
Non, l'arrivée de la création de l'Alliance n'a pas changé.
Les chiffres se sont empirés depuis ces derniers temps.
Non. Vous savez, Mark Twain l'a dit, en matière de chiffres, je suis d'accord que la situation est difficile pour certaines zones. Aujourd'hui, par exemple, au Burkina Faso, il y a une sorte d'accalmie dans certaines régions. Nonobstant, ce qui est arrivé à Barsalgo, qui est assez particulier, il faut le dire clairement qu'il y a des efforts substantiels qui ont été faits par les militaires qui sont venus au pouvoir, savoir Sami Gouéta, le président Ibrahim Traoré et le général Kiani. C'est vrai qu'il y a eu ces situations, mais nous qui sommes sur le terrain et qui analysons les situations, on essaie de contextualiser donc certaines attaques et on regarde que il y a une sorte d'autonomie, ça il faut le dire, la souveraineté sécuritaire, on l'a aujourd'hui, on a des fils du Sahel qui se mobilisent pour le Sahel, on a des populations, les peuples du Sahel qui ont confiance donc à ces militaires qui sont venus au pouvoir, qui essaient de reconstruire des armées, parce que là il faut le dire, nous sommes rentrés dans les programmes d'ajustement structurel, nous n'avons pas construit des armées, aujourd'hui ce sont les fils du Sahel, des militaires du Sahel qui reconstruisent les armées du Sahel.
Et ça, je vous remercie M. Kiatega, merci pour ce constat sur le terrain, je le disais un peu plus tôt, l'ONG ACLED a en effet noté une aggravation de la situation au Sahel durant les 6 mois de cette année par rapport à l'année dernière. Je vous laisse conclure, M. El Khalil. Vous voulez dire un mot avant qu'on termine cette émission?
Je voulais juste dire qu'en matière, il faut qu'on croit à certaines choses. Aujourd'hui, l'armée malienne a été remodelée, rénovée, équipée, bien équipée, mais il y a des failles. Et moi, j'ai toujours dit, M. Bagassi peut en témoigner à travers le service VO Bamara, de la VOA en langue Bamara, je l'ai toujours dit qu'il faut un véritable changement de stratégie sécuritaire et militaire dans le Sahel, plus précisément au Mali. Et tant qu'on ne le fait pas, les terroristes continueront toujours à montrer leur capacité aux autorités de la France. C'est ce qu'ils ont fait hier en attaquant l'aéroport de Kandahar. Mais c'est pour montrer leur capacité actuelle aux autorités de la transition. Donc aujourd'hui, il faut une réponse appropriée à tous ces attaques. Mais moi, je voulais dire aujourd'hui qu'en réalité, l'aspect économique vraiment reste l'aspect le plus sensible, le plus difficile, après un an que les pays de l'Est ne sont pas formés à faire. Mais je pense qu'il y a des calculs derrière tout ça. Je pense que même la question du passeport, comme on appelle de l'Est, tout ça, les élections et toutes ces questions, je pense.
Merci Mohamed Abdelali El Khalil de Bamako au Mali, Blaise Kiatega du Burkina Faso et Bagassi Koura, chef du service de VOA Bambara. Merci pour votre contribution à ce débat Washington Forum depuis Washington. Alexandrine Rolloyo à la présentation et merci à vous qui nous avez suivis à travers nos télépartenaires sur le continent. Le rendez-vous, c'est tous les jeudis, 19h temps universel sur VOA Afrique, voafrique.com et en rediffusion samedi et dimanche. Bonne soirée et bonne suite de programme sur VOA Afrique. Écoutez la VOA en Wolof au Sénégal sur FM 102, notre fréquence à Dakar, et Tchossan FM 105.8, notre station partenaire à Toubatoul. Au menu, des émissions spéciales produites par les étudiants des 3 meilleures écoles de journalisme de Dakar. Chaque jour, chaque heure, voix des jeunes, par les jeunes et pour les jeunes, la VOA en Wolof, une autre facette de l'actualité au Sénégal, vue par des jeunes journalistes sénégalais.
Santé, bien-être, sport, beauté, nouveauté. Carnet de santé est l'émission hebdomadaire qui vous veut du bien. Des chroniques, des reportages, des témoignages recueillis sur le continent et ailleurs. chaque semaine, je vous donne rendez-vous pour une consultation avec nos experts. Carnet de santé vous donne la parole pour leur poser vos questions et recueillir leurs conseils. De Washington, Lina Armoudou vous propose Carnet de santé, votre nouvelle émission de santé de la Voix de l'Amérique.